RFI.
RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue et bonne année 2018 à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat cette semaine uniquement sur RFI. Nous reprendrons nos émissions conjointes avec TV5 Monde dès vendredi prochain 12 janvier. Mais Ousmane Diaye de TV5 est avec nous aujourd'hui. Également Pascal Hérault de L'Opinion ainsi que Louis Magloire-Kemayou du Club de la Presse africaine. Dans cette édition, deux sujets. La RDC, après ses marches anti-Kabila de la Saint-Sylvestre, de cette veille du nouvel an, réprimée dans le sang. Et puis au Libéria, où Georges Weah a remporté la présidentielle de deuxième tour. Le plus dur reste à venir pour l'ancienne gloire du football international. D'abord, la RDC, cette funeste Saint-Sylvestre 2017, à la veille du nouvel an, donc, des marches anti-Kabila sont réprimées dans le sang, au moins 5 morts, selon un bilan avancé par l'ONU. Des laïcs chrétiens, à l'origine de cette mobilisation, voulaient le respect des accords politiques de la Saint-Sylvestre 2016, arbitré, souvenez-vous, vous par l'Église catholique et, hélas, foulé du pied par le pouvoir de Joseph Kabila. Les forces de l'ordre, policiers et militaires, les ont traqués, ces contestataires, jusqu'à l'intérieur des églises pour les faire taire. L'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Monsengo, conscience religieuse, a eu des mots très durs. Conscience politique également, car le prélat a dénoncé ici des dirigeants, Ousmane Diaye, des dirigeants qui bafouent à la fois la liberté religieuse et puis ce fondement, selon lui, de toutes les libertés.
Et puis il va même au-delà, il dénonce, il dit clairement que ce régime médiocre, ces médiocres qui gouvernent la RDC, doivent partir. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'ici, l'Église était dans une position de médiateur, certes de médiateur critique, avec la Synco, la conférence des archevêques, qui a jusqu'au bout essayé d'avertir le président Joseph Kabila et d'inventer et de trouver les conditions politiques d'une sortie de crise. Je pense qu'ils ont dû drôlement avoir l'impression d'être floués parce que l'accord de la Saint-Sylvestre 2016 quand même n'est pas appliqué. L'arbitraire du pouvoir en place. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'ici, à mon avis, le régime du président Kabila pensait se tirer d'affaire parce que les forces politiques classiques n'arrivaient plus à mobiliser. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives de mobilisation avant celle du 31, avec des journées villes mortes qui n'ont pas été très très bien suivies. Et là, on a la force sociale, à mon avis, la plus organisée du pays, qui est clairement en position d'opposition. On a l'impression qu'aujourd'hui, la première force d'opposition à Kabila, ce n'est plus Tshisekedi, ce n'est plus le rassemblement, mais bien l'Église catholique. Et je pense qu'il aura fort à faire, parce que l'Église catholique est dynamique, organisée, avec une vraie capacité de mobilisation.
Donc, Monseigneur Monsengo, conscience religieuse et conscience politique, qui aujourd'hui est à la tête de cette contestation, finalement, de ce pouvoir de Kabila, Louis.
Le fait est qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on a l'Église catholique qui prend très clairement position, il y a une tentative pour le gouvernement aussi, de récupérer sa part d'église. Avec toutes les églises éveillées, la RDC aujourd'hui est un pays où vous avez beaucoup d'églises éveillées qui ont été créées, où ces églises ont des chaînes de télévision, des groupes de presse même, de façon générale. Et donc, une mission de ces églises-là a été envoyée en Europe pour prêcher la bonne parole. Je ne sais pas si cela va réactiver les combattants qui, ici, interdisaient les concerts des artistes qui soutiennent le gouvernement, mais on part quand même dans un bras de fer qui est très malsain et qui est surtout celui de dire le gouvernement veut diviser au sein de l'Église et des croyants. Quand on regarde la situation en République centrafricaine ou même un peu plus loin au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que cela a produit, c'est jamais bon. Il serait bien avisé au niveau de Kinshasa de respecter les accords qui ont été signés et d'organiser les élections dans les délais impartis.
Pascal. On est clairement rentré dans un bras de fer avec l'Église catholique. Et l'Église est venue rappeler aussi, par des gestes très symboliques, le fait de sonner les cloches tous les jeudis pour rappeler que le temps politique du président actuel était terminé et qu'il fallait respecter ses accords. Quant à la stratégie de division des religieux du pays, c'est une stratégie qui a déjà été utilisée par le pouvoir en place avec l'opposition. On va être dans un nouveau schéma. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique va agréger, à mon avis, beaucoup de monde. La société civile, les partis politiques vont se retrouver. On va être dans un vrai bras de fer. Après, il va y avoir un choix très clair à faire pour Kabila. Est-ce qu'il va décider de passer en force jusqu'au bout? Il faut quand même rappeler qu'il y a des fractures familiales chez lui. Son grand-père, qui était un administrateur colonial, a été assassiné. Son propre père l'a été, et à l'époque. Il avait même quelques résistances quand on lui a proposé le pouvoir. C'est une histoire qui peut très mal finir pour lui. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout?
Voilà, parce que Ousmane Diaye, on a quand même l'impression que Joseph Kabila aujourd'hui s'entête. Et puis on voit un homme sûr de lui, avec une barbe épaisse, une personnalité carrée. Lorsqu'on l'a vu lors de son discours du Nouvel An, d'ailleurs il n'a pas eu un seul mot pour les victimes de la répression de la Saint-Sylvestre. Il a plutôt mis ou cherché à mettre le chaos sur le dos des opposants dans une espèce de nébuleuse très floue. En tous les cas, cette répression n'augure rien de bon quant à la tenue des élections promises en 2018, cette fameuse présidentielle qui aura alors 2 ans de retard sur le calendrier, et ça n'augure pas du tout de crédibilité ou la crédibilité éventuelle de ces élections si elles se tenaient.
Faut jamais oublier d'où vient Joseph Kabila. Il n'a pas une culture politique, il a une culture militaire. On est allé le chercher dans le maquis, à la tête des troupes qui à l'est. Mmh. On est allé le chercher pour l'introniser président à la mort de son père.
Assassiné.
Laurent-Désiré Kabila.
Le tombeur de Mobutu.
Donc je pense que ça m'étonne pas sa posture pendant le discours de fin d'année. Je pense que c'est un militaire et qu'il est dans posture de combat et qu'il faut mater les forces de résistance. Il n'a pas une culture du dialogue politique. On a très peu vu Joseph Kabila être dans une culture du dialogue politique et du compromis.
Sauf le dialogue qu'il voulait et dont personne ne voulait.
Parce que bon, le dialogue finit toujours par un coup de force.
Et sur les élections, alors?
Sur les élections, alors le problème, il va encore se poser, comme ça s'est posé l'année dernière. C'est-à-dire au Kassai, quoi qu'on en dise, le Kassai est ingouvernable, il y a un vrai problème de sécurité. Mmh. À l'est du pays, il est incontestable qu'il y a un problème de sécurité.
Et il y a des risques de poches de violence ailleurs.
Il y a des poches de violence. Donc en fait, l'argument des partisans de Kabila, qui était de dire « nous n'arrivons pas », entre autres, c'est un des arguments à organiser les élections, parce que l'enrôlement au Kassai, nous ne réunissons pas les conditions pour le faire. L'argument se pose toujours, bien que l'enrôlement soit fini, on ne peut pas organiser les élections. De toute façon, la RDC est toujours en guerre depuis l'indépendance. Voilà. Donc l'argument de ces partisans, de dire qu'on ne peut pas organiser les élections parce que la RDC est en guerre, c'est un peu quand même mépriser tout le monde, parce que quand Kabila prend le pouvoir, le pays était en guerre.
Voilà. Et sur l'agenda électoral, alors que penser effectivement si ces élections vont se tenir ou non, et si elles se tiennent, est-ce qu'elles seront vraiment crédibles, dont cette présidentielle qui devrait normalement effacer de la scène politique M. Kabila? Louis,
je pense que quelle que soit la situation sécuritaire, aussi bien dans le Kassai que dans n'importe quelle autre partie du pays, les élections auront lieu. Le précédent ivoirien est là pour le montrer. C'est pas parce que tout le pays n'est pas pacifié qu'on n'organise pas les élections.
Avec ou sans Kabila, c'est une question qui se pose. Il n'a pas encore répondu à cette question.
Alors, l'autre argument, c'est de dire que une élection, c'est quand même une organisation politique. C'est que ce sont des partis politiques qui y prennent part.
Oui.
Et là, aujourd'hui, on sent à la fois une écrasante présence du PPRD, du président Kabila.
Le parti présidentiel.
Et une atomisation de l'opposition qui, aujourd'hui, ne joue pas son rôle.
Voilà.
Entre Félix Tshisekedi, qui est en train de jouer au
démiurge. Et Moïse Katumbi, interdit de séjour.
Et Moïse Katumbi, on a l'impression qu'il n'y a plus assez de ressources, de ressorts dans l'opposition pour un second souffle.
Pascal, ces élections,
je pense qu'il y a différents scénarios qui sont en place au niveau du pouvoir. Il y a la possibilité pour Kabila de se présenter et doit passer par une révision constitutionnelle qui sera difficile à obtenir. Je pense qu'il y a aussi une stratégie à la Poutine-Medvedev avec un candidat qui pourrait être président, lui prenant le poste de Premier ministre, qui est également à l'étude. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si Kabila veut rester au pouvoir aussi longtemps, c'est que, un, s'il part, il y a des affaires judiciaires qui pourraient remonter, et il y a aussi tout un cercle familial qui trempe dans les affaires depuis 17 ans qui sera écarté. Donc il y a des raisons politiques et il y a des raisons économiques.
Et il y a des raisons comptables. En tout cas, cette répression policière sanglante de la Saint-Sylvestre en RDC a provoqué des flots de condamnations, l'ONU, l'Union africaine, l'Europe, etc. J'en passe. En fait, le même discours qu'en septembre 2016, il y avait eu 50 morts, donc 10 fois plus, mais finalement, ça n'a jamais jamais empêché M. Kabila de rester là et de jouer les fers à bras, finalement, face à la communauté internationale, divisée sur le cas de la RDC.
La communauté internationale est divisée. Il faut rappeler qu'elle dépense quand même 2 milliards de dollars par an dans les forces de la MONUSCO. Les États-Unis sont dans une phase où l'Afrique n'est pas vraiment une priorité. La France n'a pas envie de se mouiller plus que ça. Les Belges, l'ancienne puissance...
Et la Chine et la Russie...
La Chine et la Russie...
Ne pensent qu'à leurs intérêts.
Les seuls qui pourraient vraiment faire quelque chose sont les voisins et les puissances régionales, comme l'Afrique du Sud, comme l'Angola, sur lequel la communauté internationale compte beaucoup pour faire passer des messages à Kabila. Il faut rappeler que c'est quand même l'Angola qui a sauvé la peau au pays après quand le père Kabila a eu des problèmes avec le Rwanda.
Absolument. Et Louis, à propos donc de cette attitude, de cette faiblesse de la communauté internationale à faire bouger les lignes en RDC, en raison de divisions.
La communauté internationale est d'autant plus faible que les voisins immédiats aujourd'hui n'ont plus totalement prise sur le phénomène. C'est-à-dire que même l'Angola, si elle voulait encore jouer un rôle de premier plan, n'est plus en position de le faire, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un changement de régime. C'est la première explication. La deuxième, c'est que la crise du pétrole est passée par là, et donc l'Angola n'est plus si souveraine que ça de ce point de vue pour financer les élections ou pour soutenir la présence de Joseph Kabila. Et puis derrière cela, le Rwanda, je pense qu'il a d'autres préoccupations aujourd'hui. Absolument. Que la RDC.
Voilà, Ousmane Diaye et puis l'ONU, qui viennent nommer d'ailleurs une nouvelle représentante, une diplomate algérienne de carrière, saluée par tout le monde.
Léla Zerougui, qui rentre en fonction en février. Puis en plus, les sanctions de l'Union européenne contre certains dirigeants congolais ont été à peine, enfin ça a eu du mal à être renouvelé. Ils l'ont renouvelé sans l'élargir, alors que bon, il y a d'autres personnalités qui sont impliquées dans ces affaires-là. Donc oui, je pense que la communauté internationale est totalement impuissante.
Voilà, on reviendra bien sûr sur ce cas de la RDC dans les prochaines éditions d'Afrique Presse, RFI Afrique Presse, cette semaine uniquement donc sur notre antenne RFI avec Ousmane Diaye, Pascal Hérault et puis Louis Magloire-Kemayou. On passe messieurs à notre deuxième sujet. À 51 ans, l'ancien international de football Georges Weah a donc remporté le second tour de la présidentielle du 28 décembre au Liberia. Il a obtenu 61,5% des voix contre 38,5% pour son rival et vice-président sortant Joseph Boakai. Alors, d'abord, la charge symbolique et historique, Ousmane Diaye, de cette victoire. C'est la première alternance démocratique au Libéria, nous dit-on, depuis 1945. Et puis surtout, c'est la première fois qu'un natif, autrement dit un Libérien de souche, arrive au pouvoir par la voie des urnes, quasiment depuis le milieu du 19e siècle. Au Libéria, en effet, le pouvoir a toujours été aux mains des descendants afro-américains, appelés là-bas les Congos, jusqu'au fameux coup d'État de Samuel Doe, le sergent.
Ouais, qui a eu la fin qu'on connaît, la triste fin.
Découpé en morceaux.
Découpé en morceaux par Prince Johnson, qui est aujourd'hui sénateur, qui était candidat aussi à l'élection présidentielle. Comme quoi la démocratie aussi, parfois, nous réserve des surprises. Surtout la démocratie libérienne, qui quand même est la première démocratie à élire. En Afrique, en tout cas, un président avec ce profil plutôt rare, quand même, qu'il faut le dire, faut le souligner.
George Weah,
ancien footballeur, en dehors des élites à la fois ethniques, si on peut dire.
Preuve qu'en dehors des gens, il y a la tête.
Oui, c'est ça. Quand j'en viens à les têtes. Et puis en plus, il a eu quand même un parcours très méritant parce qu'il a beaucoup été critiqué sur l'absence d'études et tout. Entre deux défaites et deux tentatives pour accéder à la présidentielle, il est allé étudier aux États-Unis, il a un master de gestion. Sur le plan symbolique, la charge est, c'est très puissant, c'est très fort. Pour les Libériens, c'est quelque chose qui doit avoir l'équivalent, à mon avis, pour les États-Unis. Enfin, si on peut comparer, parce que le Libéria fait toujours écho aux États-Unis, à l'arrivée d'un Barack Obama au pouvoir.
Absolument.
Pense qu'en termes de charge symbolique pour les Libériens natifs, ça doit être la même puissance. Après, je pense qu'une fois le symbole passé et que la popularité aura rebaissé, je pense qu'il sera tenu comme un président normal, parce que plus l'espoir est grand, plus la déception risque d'être grande.
Voilà. Alors cette victoire, Louis, il faut le souligner, c'est la victoire de M. Weah, puisqu'il a été élu en son nom, mais il a quand même comme vice-présidente l'ancienne Madame Charles Taylor, condamnée à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, notamment en Sierra Leone, voisin, alors que lui-même a été l'un des chefs de guerre de cette triste tragédie de la guerre civile libérienne. Alors, est-ce que ça vous paraît compatible? Est-ce que ça vous paraît de bon augure, là aussi, que Weah se rallie à cette dame dont le mari est peu recommandable et qui continue à influer sur la politique libérienne, nous dit-on?
Ce qui est certain, c'est qu'en politique, les choix ne sont pas toujours rationnels et moraux. Ce qui est certain pour Weah, c'est qu'après deux échecs, il fallait trouver une parade pour être élu. Venant d'un quartier très pauvre, venant de l'ethnie dont nous avons suffisamment développé les terres, les difficultés, surtout l'accès au pouvoir, il devait avoir une caution. Et cette caution, il semble l'avoir trouvée auprès de Madame Taylor. Et donc aujourd'hui, l'idée pour lui, c'est d'aller beaucoup plus loin dans le chantier de la réconciliation. Parce que mine de rien, le Libéria est très divisé de ce point de vue. Et c'est une faiblesse pour le pays parce que même le vice-président avait cet avantage de faire partie de l'élite intellectuelle du pays et donc d'être quasiment toléré, mais la présidente n'a pas fait campagne pour
voilà,
lui.
Voilà, on a vu Hélène Johnson Sirleaf, hein, une Congoise issue d'Harvard, ancienne banque mondiale, profilée grande économique, mais qui en finalement laisse à Weah, Pascal Hérault, un héritage économique absolument épouvantable.
Elle a hérité d'une situation terrible à son arrivée. Elle a
mais qu'elle n'a pas beaucoup changé.
Elle n'a pas réglé.
Elle n'a pas changé, mais elle a quand même réglé
tous les problèmes.
Elle a fait partie des gens qui ont quand même soutenu à la fois Taylor et Johnson au début,
mais qui a été quand même prix Nobel de la paix malgré tout.
Allez. Elle n'a pas réglé tous les problèmes. Elle laisse quand même un pays en paix à l'issue de ses deux mandats et une élection qui a été reconnue par tous les acteurs. Alors certes, le pays est divisé. Il suffit de regarder la carte électorale. Vous voyez très bien qu'il y a les différents candidats ont chacun leur fief. Le chantier de la réconciliation va être très important à mener pour Georges Weah, mais le principal chantier qu'il aura à mener, c'est celui de l'éducation et celui de la relance économique. Il y a plus de 60% des jeunes dans ce pays qui sont sans emploi et qui n'ont pas été plus loin, qui n'ont même pas achevé leurs études primaires. Mmh. Il y a plus de 64% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Et une majorité de la population est employée dans l'agriculture. Ouais. Donc il y a de très importants chantiers à mener dans ce sens pour le nouveau président. Il va falloir qu'il travaille sur les infrastructures, sur les modes de production.
Sur les contrats miniers aussi, Ousmane Dia, et ce pays est extrêmement riche. Il y a de l'or, du diamant, enfin, etc., des métaux précieux, mais malgré tout, les investisseurs finalement pratiquent, semble-t-il, des relations contractuelles pas toujours très recommandables. C'est un pays dont l'agriculture, ma foi, pourrait exploser, mais qui en fait ne parvient pas à nourrir sa propre population.
Importe le gros de la nourriture.
Donc, Monsieur Weah aura beaucoup, beaucoup à faire.
Pays très riche, mais avec une configuration très complexe pendant la période de guerre civile, pendant la période des factions, les multinationales n'ont pas cessé de s'y intéresser, notamment la grande multinationale Firestone.
Pour les BIA. Les pneumatiques.
Les pneumatiques, le caoutchouc, qui est la principale ressource économique du pays, la principale matière première du pays. Et on arrive à une situation où je pense que la réforme minière sera... La réforme minière et la réforme de l'investissement, des contrats d'investissement sera un gros point sensible parce que pendant la guerre civile, autant Taylor, Prince Johnson, à chaque camp traitait, chaque chef de guerre traitait directement avec les multinationales, notamment minières. L'un des échecs de Sirleaf, c'est de ne pas avoir réussi à remettre à plat la relation avec les multinationales, qui est très complexe. Les multinationales ne vont pas se laisser faire. Ils vont d'abord défendre les intérêts économiques avant de défendre les intérêts des Libériens. Et jusqu'ici, les intérêts des Libériens ne sont pas du tout défendus ni représentés dans les contrats actuels. Ça, c'est un gros, gros, gros chantier pour le président.
Dernier mot de conclusion pour vous, Pascal. 30 secondes.
Il va falloir qu'il trouve sa véritable politique économique. Hélène Johnson Sirleaf, c'était très libéral. Lui, quand on regarde son programme et ses propositions, notamment achat de la production des pays, est beaucoup plus socialiste. Il va falloir qu'il trouve un très bon ministre de l'économie, qu'il trouve un bon mariage entre les cultures d'exportation et la production locale qui doit se substituer aux 80% d'importation de matières premières.
Et ce ne sera pas facile. C'est la fin de cette émission. Merci Ousmane Dia, Pascal Hérault, Louis Magoire, Comayou, à la réalisation Marie-Noëlle Gindreau. Cette édition est à retrouver sur le site internet de RFI. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse. Rendez-vous la semaine prochaine en duo, cette fois avec TB5 Monde, ce sera le 12 janvier.